Alors c'est pas tout de voir toutes ces belles choses qui sont passées au désert, la rencontre, les fiançailles. Et le désert c'est aussi où, le lieu où on est tenté et on expérimente comme les deux pôles de la condition humaine. Enfin, on retrouve le bon usage de la création dans l'action de grâce et le partage. Et puis en même temps, quelquefois par une sorte de défoulement, là, alors il y a des révoltes, il y a la grande bouffe, il y a... Et puis alors la révolte type, enfin, l'apostasie type, c'est le veau d'or. J'ai sauté au-dessus tout à l'heure pour le garder là. Alors maintenant, voyez-vous, ce qui me sert de direction dans ce fameux texte de Saint Paul qu'on a lu ce matin. Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frère, il parle aux Corinthiens, là, ces païens de Corinthiens. Nos pères sont tous passés sous la nuée, etc. Ils ont tous bu rocher spirituel, vous rappelez ce texte qu'on a lu ce matin. Ces faits se sont produits, dit-il, pour nous servir d'exemple. Ah, très bien. Mais alors aussi pour qu'on ne fasse pas comme ils ont fait dans le désert. Pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise comme ils en eurent eux-mêmes. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux dont il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser ». Ici, ça doit être un euphémisme. On va revenir un petit peu en arrière et puis revenir sur cette histoire du veau d'or qui est très importante. Rappelez que Moïse, en montant à la montagne, il avait dit « Attendez, et puis vous avez Aaron et Hur pour s'occuper de vos problèmes si je tarde. » Il faut savoir attendre. Quand le peuple, chapitre 32 de l'Exode, vit que Moïse tardait à descendre, ils s'assemblèrent auprès d'Aaron et lui dirent « Allons, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. » Vous vous rendez compte? Bah, jusqu'à présent, Dieu a essayé d'apprendre que c'est lui qui nous avait fait, que lui était Dieu et que nous... Et maintenant, voilà que le peuple va trouver le grand prêtre et lui dit « Fais-nous un Dieu, fabrique-nous un Dieu. » Vous sentez? Fabrique-nous un Dieu. Vous savez que les... Vous savez, parlons un petit peu du temple de Jérusalem, vous savez ce qui s'est passé lorsque Titus a violé l'interdiction de pénétrer dans le Saint des Saints où était la présence divine. Vous savez, qu'est-ce qu'il a trouvé?
Rien.
Rien. Justement. Et lorsque l'arche d'alliance était encore dans le temple, elle était sur le propitiatoire entre les ailes des kéroubes dans un espace vide. Voyez Dieu, on ne peut pas le représenter. À moins que Dieu prenne l'initiative de nous parler jusqu'à naître dans une crèche et puis cheminer sur nos chemins. On verra dans l'évangile. Mais ça, c'est une initiative de Dieu dont on comprend la gratuité avec émerveillement, d'autant plus que dans l'Ancien Testament, on a été éduqué à la transcendance de Dieu. Cette initiative que Dieu prend de s'anéantir.
Avec simplement ces initiatives aussi, ce sont les anges. Les anges du Seigneur qui cachent une présence, enfin c'est Dieu lui-même souvent qui se révèle.
Oui. On fait tout ce qu'on peut pour éviter l'anthropomorphisme là. Et c'est au moment où on n'osait même plus prononcer le nom de Dieu, où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints et bafouillait le nom de Dieu, au moment où on avait le sens du sacré le plus développé, que l'incarnation se produit à la plénitude des temps. La pédagogie divine, on n'a pas fini d'inventorier tous les procédés, toutes les méthodes que Dieu a de nous parler. Alors le peuple va trouver le grand prêtre et lui dit « Fais-nous un Dieu ». Alors, quand on fait de la pastorale, il faut savoir faire la part des choses et puis accueillir les demandes qui viennent de la base. Aaron leur répondit « Ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi ». Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors, ils dirent au pluriel, c'est pas Aaron bien sûr, quand même, le grand prêtre. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ça vous dit rien ça? Où est-ce qu'on trouve cette phrase textuellement? Voici ton Dieu Israël qui est un des veaux, à propos de veaux aussi.
Ben, c'est quand la construction des veaux là, à Bethel.
Et voilà, exactement. Exactement. Vous savez ce qui s'est passé après Salomon, on a déjà parlé l'autre jour, là, cet écroulement, le schisme politique qui se fait à Sichem, et le roi Jéroboam qui a entraîné 11 tribus, 10 tribus dans le schisme. Tiens, ce raisonnement suivant, si les gens continuent à aller en pèlerinage à Jérusalem, dans le temple, comme ils ont pris l'habitude de le faire au temps de Salomon, mon schisme n'a pas duré longtemps. Alors, après avoir délibéré, il fit deux veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Il dressa là à Bethel, au sud de son royaume, et le peuple alla en procession devant l'autre jusqu'à Dan, à l'extrémité nord de son nouveau royaume. Il n'y a pas de doute que, sentez, ici, les scribes là, rapportent d'antiques traditions et puis introjectent des expériences beaucoup plus tardives. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Aaron bâtit un autel devant la statue et puis cette proclamation, demain fête pour Dieu. Il rattrape les choses, il essaie de rattraper les choses du moins. Le lendemain, ils se levèrent, ils offrirent les holocaustes, le peuple s'assit pour manger et pour boire, ils se levèrent pour se divertir. C'est ce que saint Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, il cite ça. Alors, Dieu dit à Moïse, allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter d'Égypte s'est perverti. C'est comme dans les querelles de ménage. Hein. Quand un garçon ou une fille fait une bêtise, alors le papa dit à la maman, ton fils, ton garçon, ta fille, ou bien inversement. Et ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prise. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont mis à plat ventre devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide, au contraire d'écouter, tendre l'oreille. Laisse-moi, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Alors, on trouve partout développé dans la tradition juive que quand Dieu dit laisse-moi, c'est pour qu'on ne laisse pas faire. Et alors, Moïse le prend là, il ne laisse pas faire.
C'est un des fameux marchandages qu'on trouve dans la Bible, il y en a là et puis on en trouvera d'autres.
On en verra d'autres. Et en général, quand le peuple se révolte, et alors le prophète se met du côté du peuple, et je crois que c'est Kierkegaard qui a défini la une lutte contre Dieu ou on triomphe avec Dieu. On parlera du marchandage d'Abraham pour essayer de sauver Sodome et Gomorre, là, quand on ira du côté de la mer morte. Et là, on a le célèbre Précatouzès de Moïse qu'on chantait autrefois. Là. Alors, l'argument que Moïse fait valoir, qu'est-ce qu'on va dire de toi, hein? Tu fais des promesses, je sais bien qu'on a fait ce qu'on a fait, on a fait des péchés. Mais si tu ne fais pas tes promesses, le monde entier va dire que tu es infidèle à ton alliance ou que tu es impuissant à la réaliser. Et ça, ça porte. À quoi ça va te servir si je vais dans le Shéol, dans les psaumes? Alors Moïse se retourne, descend de la montagne, avec en main les deux tables du témoignage écrites des deux côtés, gravées sur l'écriture de Dieu. Alors Josué entendit le bruit du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un bruit de bataille dans le camp. Il dit, ce n'est pas le bruit de chants de victoire, ce n'est pas le bruit de chants de défaite, c'est le bruit de chants alternés que j'entends. Et voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau. Et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère. Le plus doux des hommes que la terre ait porté, c'est dit ailleurs, s'enflamme de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla au feu, le moulut en poudre fine, en saupoudra la surface de l'eau, qu'il fit boire aux Israélites. Constamment, l'idolâtrie, c'est radical, mais ça ne vous suffira pas autre chose, cette histoire-là. Il y a une référence dans la ville de Jérusalem qui n'est pas susceptible soupçonnée de faire des rapprochements artificiels, prématurés. Elle nous renvoie au livre des Noms, chapitre 5.
C'est loin-mer.
Hein? C'est ça. Enfin, quand une femme est soupçonnée d'adultère, alors il y a un cérémonial archaïque qui a été repris dans la législation. On lui fait boire les eaux amères. Alors si elle n'a rien fait, ça ne lui fait rien. Mais alors si elle est coupable, son ventre enfle, son sexe se flétrit, ça va très très mal. Autrement dit, si l'alliance c'est les noces, ici, le veau d'or, c'est l'apostasie. Et Moïse fait boire au peuple les eaux amères de la femme adultère. Alors souvent, c'est comme pour canaliser ce besoin qu'on a une représentation concrète de la divinité que saint Thomas d'Aquin comme Maïmonide. Et saint Thomas s'est beaucoup inspiré de la Maïmonide qui vit un siècle plus tôt, la construction du sanctuaire, pour canaliser un petit peu tout ce besoin-là. C'est pas du premier coup qu'on arrive à la religion en esprit, en vérité, la dépouillée de tout, mais il y a tout un culte, toute une liturgie, la condescendance de Dieu se marque aussi par en satisfaisant ce besoin qu'on a de liturgie, et d'ailleurs qui mobilise, c'est-à-dire un aspect très positif là-dedans.
Oui, parce qu'on peut dire là, dans l'épisode du veau d'or, que c'est pas tant que le peuple renonce au Dieu qui ne dit pas son nom, dont on ne connaît pas le nom, mais c'est surtout la représentation, c'est-à-dire de vouloir bien le cerner, de vouloir le posséder d'une certaine manière, et finalement c'est là le péché d'idolâtrie.
C'est-à-dire qu'au sanctuaire, là, dont on parle dans le livre des Rois, à Bethel et à Dan, là où Amos intervient, ce qu'il condamne, c'est pas tellement l'idolâtrie. Le veau, là, c'était un peu comme les kéroubes. Mais ce qu'il condamne, c'est quelque chose de pire que l'idolâtrie. C'est, sous le paravent de la vraie religion, la pratique de l'injustice. Alors ça, c'est pire que l'idolâtrie. Relisez Amos. Mais alors ici, il semble bien que ce soit vraiment relu dans l'Exode, cette histoire du veau d'or, c'est vraiment l'apostasie, là, quand même. Il y a une étrange symétrie, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre les récits avant la montagne et les récits après la montagne. Hein. On a déjà vu Jéthro qui nous avait accueillis et puis Jéthro qui nous dit au revoir. Là. Après ça, vous rappelez encore le récit de la manne, où Dieu nous réapprend le bon usage de la création dans l'action de grâce et le partage. Et maintenant, on a encore une histoire de manne et de caille entremêlées. Et puis alors, une structuration du peuple. Et ici, on a encore aussi une structuration, mais qui vient d'en haut, par l'Esprit Saint. Et puis ensuite, on a des récits de révolte.